Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5, mais aussi sur Radio Campus Orléans, sur Radio Campus Orléans, Radio Balistique à Châteauroux, Radio Résonance, Radio Tintouin à Vierzon. Et une invitée de marque nous a rejoint. Voilà, on était déjà en interview, ça se bouscule un petit peu, et puis elle a évité les gouttes de pluie, c'est Flavia Coelho. Bonsoir Flavia.
Tout bon?
Tu.
Ah, merci de m'avoir répondu. Enfin, quelqu'un qui parle portugais ici. Ouais.
On a un super locuteur portugais à Radio Campus Tour.
Grand lusophone.
Un grand lusophone.
Ah, les gars.
Mais il n'est pas là ce soir. Vous revenez là tout juste d'une conférence qui se tenait à. Vous allez à une conférence qui va se tenir sur l'éco-village sur la LGBT-phobie. Comment vous allez intervenir, comment elle est structurée cette conférence, quelle est votre intervention?
Alors cette conférence elle tourne, si tout va bien, autour d'une heure. Moi malheureusement je ne vais pas pouvoir participer à la conférence entièrement parce qu'elle était décalée d'une heure à cause de la météo. Mais le but de cette conférence, c'est déjà de parler du sujet, c'est d'aborder le sujet, de parler entre autres aussi de la transphobie, l'homophobie, toutes les phobies qui concernent la communauté LGBT, pour parler de petits pas que nous avons faits et aussi ceux qui sont en retard, parce que moi ça me parle directement de ce sujet-là, parce que j'en ai marre de voir autant de violences, autant d'inégalités, de ce manque de diversité parfois qu'il y a dans certains cadres de travail, quoi. C'est vrai qu'effectivement dans la musique, dans le milieu artistique, c'est plus simple pour certaines personnes, on va dire ça comme ça, et je mets encore, j'ai beaucoup de tact quand je dis ça, mais dans d'autres métiers c'est très compliqué. Donc je trouve que c'est important, déjà rien qu'avoir le mot LGBT-phobie dans le programme, je trouve que c'est important.
Et justement par rapport à ce sujet, comme vous disiez, on remarque qu'il y a une prise de conscience un petit peu, alors qui reste peut-être de cloîtrée, qui n'est pas encore complètement sociétale, cette prise de conscience. Mais quel regard vous avez, vous, sur l'avenir, par rapport à quelle projection, par rapport à toute cette sensibilité sociétale autour de ces phobies? Et je trouve que ce terme est dur, phobie, parce que c'est quand même ça.
Mais il faut le dire,
ouais,
ça fait peur, ouais. D'ailleurs, ça veut dire ça.
C'est plus que de la phobie. On va rappeler, comme cette semaine, il y a un jeune homme qui a été tué en Espagne, dans la région de la Corogne, voilà, parce qu'il est homosexuel. Donc là, on dépasse la phobie, on passe carrément à la pure violence sociétale, quoi.
C'est très étrange parce que j'ai l'impression qu'il y a des avances quand même. On voit de plus en plus de personnes de la communauté LGBT, surtout de plus en plus jeunes, qui ont le courage de sortir et de s'affirmer. Mais aussi, les réseaux, ils font une bonne partie de la mauvaise chose, en fait, parce que c'est très simple, il suffit parfois de poster une photo et des inconnus viennent et te détruisent la vie, etc. Mais pour moi, je crois encore quand même en avancement, parce que justement grâce à cette jeunesse-là qui n'a plus besoin de rester enfermée, qui ouvre sa gueule, qui a envie de s'assumer, d'être présent, de faire de belles choses. Moi, je suis née dans les années 80, donc j'en ai vu beaucoup d'amis qui se sont enfermés pendant des années, qui y restent encore parce qu'ils n'ont pas le courage. Je suis issue d'une société très patriarcale, celle de mon pays, le Brésil. Même s'il y en a beaucoup de personnes trans et de personnes de la communauté LGBT et A+ au Brésil, même s'il y en a, c'est encore très dangereux quand même dans certains endroits. Et c'est pour ça que je limite avant tout, pour que ça s'arrête, pour que les personnes se respectent un peu plus les unes les autres, quoi.
Ben justement, par rapport au Brésil, on a effectivement un petit peu cet imaginaire collectif autour d'une acceptation de la transsexualité, de l'homosexualité. Et en même temps, on observe quand même un virage politique depuis quelques années, l'arrivée du nouveau président, enfin qui n'est plus nouveau d'ailleurs, et qui a un discours d'un regard extérieur qui semble dangereux. Je ne sais pas quel regard vous posez là-dessus.
Très réactionnaire. Et si vous me le permettez, j'en ai même séparé une de ses paroles. Alors, il a dit, monsieur le président du Brésil, que je n'aime pas évoquer le nom, il a dit une fois, je fais parenthèse pour ce monsieur, je serai incapable d'aimer un fils homosexuel. Je préférerais que mon fils meure dans un accident plutôt que de le voir apparaître avec un moustachu. Voilà, ça c'est le discours de celui qui était élu, le président d'une nation de 220 millions de personnes et qui vient de faire des veto à tout ce qui est campagne, marketing, etc. autour de la communauté LGBT. Donc il y a bien sûr beaucoup de personnes de la communauté LGBT au Brésil, mais il y a, ce monsieur, il y a donné de la voix à tous les homophobes du pays avec grande puissance, au point que parfois s'il y a des publicités, l'État il intervient et dit on ne veut plus voir voilà, il y a trop d'homo, il faut virer un peu ces publicités-là, etc.
Mais il y a quand même au Brésil des résistances face à ça, bon, déjà sociétales dans la rue, et puis artistiques, culturelles. Vous en faites partie, l'album que vous aviez sorti, DNA, il y avait des titres qui étaient très puissants, Sida de Perdida, etc., dans lequel il y avait de la dénonciation aussi de tout ça. Comment la société et les artistes brésiliens résistent face à ça?
Ils résistent comme ils peuvent. Déjà, ceux qui sont au Brésil sont très courageux de le faire. Ils font quand même très attention parce qu'il y a toute une militance de haters qui sont vraiment très sous monsieur là, Bolsonaro, et qui vont à l'actif et qui annulent les personnes qui font la culture des cancel culture. Qu'il suffit de dire un mot de travers et qu'ils n'aiment pas et qu'ils sont 40 millions à tomber sur votre réseau pour essayer de vous dénoncer auprès des Instagram, de Facebook, etc. C'est très compliqué. Moi, j'ai choisi de rester en France et d'écrire un album vraiment où je voulais faire un coup de gueule vraiment. Depuis toujours, je parle de ces choses-là, de ces sujets-là, sociétal, économique, politique, dans mon pays. J'ai grandi dans des quartiers, dans les favelas, etc. Je sais de quoi je parle. Mais cette fois-ci, quand ce monsieur-là est arrivé, c'était vraiment comme de la foudre sur ma tête. J'ai eu très mal pendant une bonne semaine. Ma sœur fait partie de la communauté LGBT, elle vit pas loin de chez lui. Et elle m'a envoyé des images le jour même que ce monsieur est arrivé à la présidence. Il y avait des gens armés dehors en train de dire « cassez-vous, les PD, etc. etc. » Donc vous voyez, la violence elle est assez forte, des insultes. Des gens qui se font agresser dans la rue. Il faut savoir qu'au Brésil, c'est encore le pays qui tue le plus de personnes transsexuelles au monde.
Et justement, vous êtes en France depuis 2006. Votre album, il y a des chansons évidemment donc en portugais. Est-ce que vous savez quelle réception il a, cet album? Alors en France, on sait qu'il a une très bonne réception, mais est-ce que vous savez au Brésil quelle réception il a au regard des textes qu'il contient?
Auprès des Brésiliens qui sont d'accord avec moi, c'est super. Les autres 52%, c'est plutôt des bons haters qui viennent et disent « Ouais, mais c'est bien de se plaindre alors que tu es en France, là, 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 là. » À savoir que j'ai quitté mon Brésil, j'avais 26 ans quand même. J'avais bien voyagé dans mon pays, bien vécu, grandi, mangé, dormi pays. Et si je suis partie à l'époque, il y avait Lula, le pays était en plein essor et tout, etc. Mais ce carcan vraiment de LGBT-phobie et de racisme, etc., il y était déjà avant. Donc c'était une question de temps que quelqu'un arrive et qu'il puisse dire haut et fort tout ce que certains Brésiliens pensaient tout bas chez eux, quoi.
Est-ce que vous-même, du coup, au Brésil, en tout cas, votre album il a subi des entraves, des contraintes, des censures dans sa diffusion? Parce que c'est vrai qu'en France, bon, voilà, heureusement, on a une liberté d'expression qui est quand même très très grande, fort heureusement. Mais vous vivez une situation qui est aussi celle de votre pays d'origine, le Brésil, et tous les artistes ici en France ne vivent pas ce paradoxe, quoi, de pouvoir s'exprimer ici et dans son pays, d'avoir un poids politique quand même aussi fort.
Au Brésil, excuse-moi, j'ai raté la dernière, le fil du début là. Désolée.
D'avoir des censures, des pressions.
C'est ça. Je n'ai pas vécu avec cet album, étonnamment. Par contre, je devais sortir une compilation. J'avais signé avec une grande maison de disques au Brésil pour sortir une compilation. Et c'était pile au moment où le scrutin il était en train de décéder, en fait, au 12e tour. Et j'ai un morceau qui s'appelle Sunshine, qui parle des conditions des prisons au Brésil. Voilà, depuis des années, ils sont 50 dans une cellule de 12 mètres carrés. Donc, je parlais exactement de ça. Et la maison de disques de l'époque m'avait dit « Écoute, Flavien, on voulait bien bosser ce track-là avec toi, mais tu sais, la situation politique du pays, là, en ce moment, c'est pas terrible. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire ça ?» Bon, c'était pas de la censure, mais c'était une espèce de protection de l'entourage là-bas qui m'ont dit ça c'est mieux de faire un autre morceau. À cette période-là, je devais me rendre au Brésil, faire 3 mois de promo, etc. J'ai tout annulé, j'ai dit si je ne peux pas rentrer chez moi pour parler à mes gens de mon pays, des choses qui connaissent la situation réelle des Brésiliens, j'ai aucun intérêt, donc je reste ici. C'était à ce moment-là que j'ai écrit DNA.
Donc, est-ce que ça veut dire que finalement de grands décideurs culturels, puisque les grandes maisons de disques, ce sont des décideurs culturels, réellement.
Tout à fait, qui reçoivent les subventions de l'État.
Exactement. Donc ça veut dire qu'ils se sont mis dans une position de soumission au discours politique. Enfin, est-ce qu'on peut interpréter ça comme ça?
Ah bah, carrément, il y en a même l'exemple, là je vais vous parler d'un vrai exemple, qui c'est un film avec Seo George d'ailleurs, qui a été tourné il y a à peu près un an et demi que ce film devait sortir. Il parle d'un résistant politique pendant la dictature au Brésil en 1964, qui s'appelait Marighella. Et en fait, ce film, il était boycotté carrément par les institutions de l'État qui subventionnaient le film. Donc, c'est eux qui donnent aussi le numéro de distribution, en fait. Ce film n'a jamais eu le droit à avoir le numéro de distribution. Parce que c'est un film qui, d'après les gens des extrêmes droites, c'est un film pour des gauchistes, etc., etc. Donc, le film était censuré, vraiment. Il a participé à des festivals internationaux, etc. Mais au Brésil, il n'y a jamais pu passer. Et pareil aussi pour tout ce qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est publicité, marketing, qui est autour de la communauté LGBT, tout ça, ça a été coupé. Toutes sortes de subventions qui vont vers ça, en grande majorité, elles ont été coupées.
C'est intéressant tout ce que le regard que vous nous emmenez sur le Brésil, parce que c'est des informations auxquelles on n'a pas nécessairement vraiment accès, nous, ici. C'est vraiment intéressant d'entendre ça.
Je propose qu'on fasse, avant de reprendre le fil de cette interview, une pause musicale et qu'on écoute Cidade Perdida de votre dernier album. Et puis, on reprend l'interview juste après.
Yes.
Cidade perdida, tá perto do fim. É qual é? Disseram pra mim. Cidade perdida, tá perto do fim. Fecharam o castelo, preconceito aumentou. Prometeu, nada fez, só piorou. Modificaram o nome da bomba. De TNT pra RJ, a população fica bamba. Como a gente faz, dá de cara na porta. Quem que roubou? Mala de dinheiro deram. Golpe no estado, fugiram pro estrangeiro. Corrupção e medo de mãos dadas tão lá fora. Tu bateu o bico, bate a bota antes da hora. Vi professor pobre sem salário, sendo ameaçado. Crime tá organizado. A verba foi cortada da merenda da escola. Criança carente se aproxima da pistola. Disseram pra mim. Já estão limitando o acesso à inteligência e à cultura, iniciando o retrocesso. Começo do fim, a volta da censura. Só tem patrão, só tem mafioso. X9, delação, fala demais, é perigoso. Eu vi doutor pegando semi-aberto, fugindo pras Maldivas. E o trabalhador entrando cano, alto escalão. Máfia, tudo é fake, todos na rede. Tão nessa droga face, e o sofrimento vem de lá das caravelas. A corrupção veio escondida dentro delas. Disseram pra mim. Cidade perdida, tá perto do fim. Sai de casa de noite ou de dia, não sabe se volta, isso dá revolta. Bagulho é babado, batata tá quente, inferno de Dante batendo na porta. Mamaram na teta do banco do estado, tremendo esculacho. É família, família é fé, o nível tá baixo. Por isso balanço maluco, meu sangue tá quente, eu não sou capaz. No caderno vomito o que li, o que vi, o que penso, o que acho. No quadro internacional, diz o nível tá baixo. O que era fundamental. Hoje pertence ao passado. Nossa memória no meio das cinzas queimou, apagou na semana passada. É o começo do livro da treta. Capítulo 1.
De retour sur Radio Campus Tour 99.5, mais aussi Radio Campus Orléans, Balistique, Radio Tintouin, Radio Pulsar, Radio Résonance. Vous nous écoutez toujours en direct du domaine de Candé et du Festival Terre du Son, et nous sommes avec Flavia Coelho, qui nous a fait la gentillesse de venir avant d'aller filer vers une conférence sur la LGBT-phobie. On était en train de discuter de la situation, à la fois la situation LGBT et puis surtout de la situation au Brésil. Avant de parler un petit peu de musique, une dernière question. Là-dessus, ce week-end, il y a la finale de la Copa América entre le Brésil et l'Argentine. Et en fait, il y a un mouvement au Brésil de personnes qui disent qu'ils vont siffler l'équipe du Brésil, la Seleção, et soutenir l'équipe d'Argentine justement pour protester contre le président Bolsonaro. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez qu'on puisse siffler l'équipe nationale au Brésil, pourtant grand pays de football là?
Ah ouais, l'équipe nationale du Brésil, ça fait longtemps qu'ils ont des soucis au bled aussi. Mais je ne suis pas là pour parler que des soucis non plus. Mais je suis là pour attendre... Je veux d'abord attendre comment ça va se passer pour voir vraiment s'ils vont siffler, si jamais il y a un but. Je ne sais pas, les Brésiliens, le foot, ça reste quand même un sujet à ne pas trop mélanger à toutes les sauces. Mais ça fait un moment que les Brésiliens, ils sont un peu en détresse avec la Seleção, on va dire ça comme ça. D'habitude, on appelle Neymar le menino Neymar, mais le menino Neymar, que ça veut dire le garçon Neymar, il n'a plus 20 ans, ça fait un moment. Donc, je pense que les gens, ils demandent beaucoup, beaucoup trop de lui. Ils attendent beaucoup de lui et ça fait un moment que ce n'est pas terrible au Brésil. Bon, on verra. Je lui souhaite bonne chance.
Pour revenir encore sur ce sujet, il y a quand même ce scandale aussi du numéro 24 où là on est quand même en plein dans le
bien
sujet.
Sûr, hein.
C'est juste incroyable si ce qu'on entend est vraiment justifié par des actes homophobes, enfin par une pensée homophobe.
Mais
en fait,
carrément, il y a, vous savez, dans l'Assemblée législative au Brésil, le bureau de numéro 24 n'est pas habité.
Ah oui, carrément.
Il est carrément utilisé comme une espèce de blague pour les jeunes députés qui débarquent et qui disent, voilà, je t'ai mis dans le 24. Voilà, ça commence par là.
Okay. Ouais, donc on se rend bien compte que c'est institutionnel, quoi.
C'est ce que j'appelle ce petite LGBT-phobie récréative que les gens le font tous les jours et ils ne s'y rendent pas compte. C'est sous cela que je me bats. Je veux avant tout laisser quelque chose de très clair. Je ne veux pas prendre la parole de quelqu'un qui appartient vraiment à la communauté. Moi, ce que je défends, c'est le respect. Que les gens ils apprennent à se respecter les uns les autres. Et de la diversité, de voir plus de personnes un peu partout. Voilà, c'est ça que je défends avant tout.
En tout cas, on a parlé des soucis. Il y en a eu, on a eu des choses positives. Alors, même si l'année 2020, elle a été quand même marquée par un événement qu'il est nécessaire de rappeler, vous nous avez accompagnés tout le long du confinement avec un titre, La Bonne Nouvelle, qui servait un petit peu quand même de leitmotiv et qui servait quand même à se remobiliser un petit peu moralement pendant le confinement. Ce que vous allez interpréter après sur scène à Terre du Son, est-ce que c'est dans la même veine? Ça va être des titres aussi de l'album DNA, des nouveautés?
Carrément, c'est un peu... je mélange là cette année, ça fait 10 ans depuis la sortie de mon premier album, donc oui. Je mélange un petit peu les sons des différents disques. Et Bonne Nouvelle, voilà, c'était surtout un envie de dire aux gens que voilà, on respire, tu respires, tu marches, tu ouvres le robinet, il y a de l'eau, t'en lis pour t'allonger. Bon, bonne nouvelle. Commençons déjà à apprécier ces petites bonnes nouvelles tous les jours là pour pouvoir vraiment se rendre compte combien la vie est fragile. Et je crois que l'année dernière, c'était la preuve encore, nous y sommes encore. Hein. C'est toujours pas fini. Donc je pense que ça, c'était un bon... Les gens y ont pris un coup avec ça. C'est important de mettre ça en musique aussi, de se rappeler bien. Rappelons-nous qu'il y a des gens dans des situations vraiment encore plus difficiles que les nôtres. Apprécions les bonnes choses qui sont autour de nous.
C'est un message important, je pense, en ce moment, vraiment. Et en plus de ça, justement, musicalement, il y a des textes très conscients dans ce que vous nous proposez. Y a et en même temps, il y a quand même toujours cette couleur qui, je dirais, va au-delà vraiment du Brésil, parce qu'il ne faut pas rentrer dans la caricature des musiques brésiliennes joyeuses et tout ça, parce qu'en plus de ça, elles sont beaucoup plus larges que simplement...
Le Brésil est un continent, quasiment.
Voilà, exactement. Carrément. Mais il y a quand même, dans vos productions, une forme d'ossature... qui semble assez optimiste. On est sur une musique qui reste quand même assez joyeuse, qui donne envie en tout cas de bouger, qui est dynamisante. Pour vous, c'est un parti pris artistique?
C'est l'histoire de ma vie tout court. Je suis comme ça dans ma vie en fait. Et c'est normal que mon écriture, par la suite, elle devienne comme ça. Après, en même temps, c'est très latino-américain, c'est très continent africain de chanter nos tristesses, nos douleurs, nos difficultés autour de la musique qui danse, parce que c'est la seule chose qui nous reste, en fait. C'est d'être heureux avec le peu qu'on a. Donc, nous, au pays, au Brésil, t'as un ballon en papier, ben, on va faire du foot, ben, tu sais taper un peu sous les tables, ben, on va faire une percussion, on va danser. En vrai, ça peut être quelque chose de très triste, mais même de là, ça devient joyeux parce qu'on est content avec le peu qu'on a. En fait.
Vraiment revenir finalement à l'essentiel, finalement revenir à ce qui...
C'est ça, à la vie. La vie, c'est ça, c'est un coucher de soleil, c'est un lever de soleil, c'est d'être dans une belle journée de festival avec plein de copains. Je pense que c'est comme ça, cette chose-là qui est arrivée, là, la Covid est arrivée pour nous remettre à l'ordre, en fait, pour... C'est la planète qui tape la porte, qui dit « Oh, vous allez peut-être un peu trop vite, ils sont
scalmés. » Et puis aussi le fait de dire que finalement, on est, comme dirait Jupiter, un monde sans frontières finalement.
Qui est un très bon ami d'ailleurs.
Oui, qu'on a eu la chance de recevoir hier sur ce plateau.
Tout à fait. Lui, il sait très bien de quoi il parle.
Oui.
Cette année, vous avez aussi collaboré, on vous a vu sur l'album d'un de vos compatriotes, Joao Selva. On vous a vu aussi sur un album de Bunko, donc avec... Voilà, d'autres sonorités encore. Vous n'avez en fait pas complètement fini le petit voyage musical.
Jamais. Jamais. Ce grand philosophe Yannick Noah qui a dit que le métissage, c'est la réponse pour le monde, etc. Donc je pense que c'est bien ça. On ne peut pas nous empêcher de nous métisser, de nous rencontrer les uns les autres. Que, quand je suis arrivée ici il y a 15 ans maintenant, les gens ils avaient justement cette idée caricaturale du brésilien avec la petite guitare, les cheveux longs, la fleur et tout. Moi, j'ai tout ça, mais j'ai aussi le reggae, le raga, le hip-hop, etc. etc. Donc avec le temps, tout ça, ça s'ouvre. On regarde les DJ depuis les 15 dernières années. Il y a la petite guitare africaine d'hier, et il y a le groupe techno, on prend l'exemple de Mathieu Chedid qui a fait L'Homme au Mali, donc je pense que c'est un peu comme ça, il y a tout qui se mélange, les rappeurs qui jouent avec Sofiane Pamar, on ne peut plus négliger ce qui est évident en fait, que les gens, le métissage musical est éternel, donc moi perso je suis au service de la musique. La musique est bonne, tu m'appelles, j'y vais.
Mais ouais, on sent bien que vous êtes vraiment sur de la multi-influence, ce qui est d'ailleurs très agréable à l'oreille, puisque justement, on n'est pas dans un carcan musical. Et finalement, je vais utiliser une qualification que moi je ne supporte pas, qui est les musiques du monde. Qui, voilà. Mais quand je dis ça, c'est parce qu'on classifie toujours en fait, des musiques du monde, alors que toutes les musiques sont du monde. Mais finalement, le type de sonorité que vous nous emmenez est peut-être ce qu'on appelle réellement la musique du monde, de par le fait qu'on soit sur une multi-influence. Ça vous parle si on qualifie un petit peu votre musique comme ça, plutôt que dès que ça soit de la samba ou que ça soit de l'afrobeat, on dit que c'est de la musique du monde, alors que non, c'est pas de la musique du monde.
C'est un vieux terme.
Alors que le métissage, justement, musical, c'est peut-être ça la musique du monde aujourd'hui.
Ouais, c'est un vieux terme. Il y a encore, je pense qu'il y a très peu de gens qui utilisent encore la musique du monde. Ceux qui ont commencé, il y en a. Mais nous, par exemple, nous qui sommes vraiment dans le cœur du métier, il y en a des courageux qui le disent encore, mais d'une, ça nous apporte dans un passé très colonial, qui n'a rien de positif qui apporte, alors que c'est une musique qui est là pour justement apporter la diversité. Ceux qui ont commencé déjà à enlever ce mot, ce sont les Anglais. Un magazine anglais qui s'appelle Songlines, que depuis très longtemps, ils n'appellent plus du tout ce terme musique du monde. En France, il y en a encore un petit peu. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ce qu'ils appelaient la musique du monde. Maintenant, c'est plus que démocratisé. On écoute de la Cora avec les grands rappeurs. Les grands rappeurs mettent des mots, soit du Sénégal, du Mali, mais un peu de l'arabe. Donc ça y est, c'est une évidence en fait. Les gens, ils ne peuvent plus dire musique du monde. C'est comme dire, au lieu de dire une soirée, dire une boum, quoi. Ouais. C'est fini ça.
toutes les cultures s'influencent les unes les autres, finalement les frontières s'ouvrent, mais aussi la culture musicale s'ouvre et s'entremêle, et c'est ça qui fait des beaux projets finalement.
Carrément, et surtout qu'aujourd'hui les gens ils n'ont plus le temps d'écouter un disque qui parle qu'est d'un seul sujet, c'est-à-dire ils vont sur plusieurs, ils ont des playlists maintenant, ils écoutent de tout un peu, et c'est comme ça qu'ils se nourrissent.
Oui, bien sûr.
Pourtant vous avez... Vous faites partie de ces artistes qui continuent d'écrire des albums où il y a quand même un vrai je veux dire, schéma narratif. Enfin, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. C'est quand même de plus en plus rare, hein, d'écouter un album maintenant du début à la fin, et pourtant vous le faites aussi. Donc c'est quand même important. On a peut-être aussi encore besoin de discours, en fait, de contenu.
Je le fais parce que, voilà, à nouveau, j'ai fait les choses qui me plaisent et qui vont en accord avec mon discours de vie de tous les jours. Par contre, ce qui est différent dans mes albums, c'est que ça ne sera jamais un album 100% reggae, 100% Afrique, 100% Caraïbes, 100% Brésil. Il y aura toujours tout, un peu de tout. Parce que justement, moi aussi, j'ai des playlists et j'aime bien passer d'un morceau à l'autre. Donc, je ne vais pas dire ça et faire autrement dans mes disques.
Alors, on nous fait un peu signe qu'il y a d'autres interviews derrière.
C'est parti, donc, les gars.
Flavia, juste pour rappeler à nos auditeurs de cet été, qu'est-ce que vous avez comme date pour celles et ceux qui souhaiteraient vous revoir en concert?
Alors, il y a plein de dates. Je suis en tournée jusqu'à mars 2022. Déjà, mardi prochain, je serai à Arles, dans le sud. Je ne connais pas toutes les dates par cœur, mais il y aura le Trianon de Paris le 18 novembre. Donc, n'hésitez pas. Venez à Paris nous voir, le Trianon, 18 novembre, je vous embrasse.
Et quelle sensation de reprendre la scène?
C'est trop bien. Moi, ce que je kiffe de plus, c'est vraiment voir les techos, entre autres. Parce que j'adore voir, voilà, les scènes qui se montent. Bien sûr que le public, je vous aime, vous savez, vous-même. Mais quand on est vraiment dans le cœur du réacteur, voilà, le catering, les techniciens, ils ont énormément souffert. Ouais. Donc, big up à toute l'équipe, à tous les techniciens
de
France. Ouais. Techniciennes aussi, s'il vous plaît, n'oubliez pas, parce qu'il y a de nombreuses filles dans la technique des spectacles.
Bien sûr.
Donc, voilà, ça, c'est un truc qui m'a vraiment touchée de les revoir, parce que moi, j'ai mon instrument. Pendant la période de Covid, je pouvais avoir mes instruments, etc. Mais quand t'es lighteux, tu peux pas trop faire des lights à la maison. Ouais, quand t'es en gestion, c'est pareil. Donc, voilà, big up aux techniciens du monde entier.
Est-ce qu'avant de partir, vous pouvez faire du coup un petit big up à toutes nos auditrices et auditeurs de Radio Campus Tour?
Et Radio Campus de Flavia Coelho, directement du cantonné de Terra do Som.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
On vous souhaite un très bon set pour ce soir.
Et on va se quitter justement en écoutant Flavia Coelho, et c'était en featuring avec Melissa, avec Joao Selva, il me semble, sur l'album Navegar, sorti au printemps aussi.
Junto, minha mana Flávia Coelho.
Fala, meu compadre da céu.
Pode chegar, pode chegar.
E corre o mundo, quero ver correr perigo. Nunca negue um abrigo na volta que o mundo dá.
Quem desce sobe, quem sobe um dia desce. No mundo nada em net, você pode acreditar.
Não tem fronteira que segure o meu cordão. Carro, trem ou avião, vou onde o vento mandar.
Eu vou de jet, vou de burro, vou a pé. Do jeito que Deus quiser, até um dia eu chego lá.
Qual é meu mano?
Qual é minha mãe?
Qual é meu mano?
Qual é minha mano?
Qual é meu mano?
Qual é meu mano?
Qual é minha mano?
Quem pode, pode, quem não pode se sacode. Quero ver que se sacode quando começa a cantar.
Que desse jeito, sem fim, sem preconceito, assim. Passar direito pra vergonha não passar.
Tem cada um, cada qual, tem sua razão. Lhe digo de coração, a solução é amar.
E prega ódio se atrasa no negócio. Por isso, meu sacerdócio é ver a poeira voar.
Qual é meu mano?